Carlo.
Oui, Sophie.
Avec nous donc ce matin, Nico Regout, la créatrice du Cercle du Cacao. Elle est importatrice et les sourceuses de fèves. De très grandes maisons lui font d'ailleurs confiance, la maison Marcolini, la manufacture Alain Ducasse. Cela dit déjà le niveau de l'exigence. Alors Nico, merci d'être avec nous ce matin.
Je suis ravie.
Entre deux voyages dans les plantations. Alors avant de tenter de comprendre votre travail dans le cœur des plantations, mais aussi en lien direct avec les chocolatiers ayant adopté cette philosophie de travail de la fève à la tablette, on va d'abord essayer de comprendre le métier de chocolatier. On n'a jamais autant parlé du phénomène du bean to bar, de cette fève à la tablette, qui est une sorte de réponse qui a émergé, on va le dire grosso modo, il y a une grosse vingtaine d'années depuis les États-Unis, face à un métier qui a sans doute cédé aux sirènes d'une industrie devenue presque fournisseuse officielle du chocolat de couverture utilisé par ses artisans. Donc au départ, on a un métier de chocolatier où on travaille la fève, on la transforme en tablette, en chocolat. Et à un moment, l'industrie a dit... On va vous aider, les amis. On va vous apporter la matière. Vous n'aurez plus qu'à la fondre et à la transformer à votre manière. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce métier pour qu'un moment, on perde une partie de ce savoir-faire, du sourcing de la cabosse?
Elle n'a pas été tout à fait perdue.
Non.
Mais elle a été grandement perdue, surtout en Belgique. C'est-à-dire que la Belgique était évidemment pionnière. Elle avait un des meilleurs chocolats au monde. Et elle a été aussi à faire un excellent chocolat de couverture qui a fait que tous les chocolatiers ont arrêté de travailler à partir de la fève et ont décidé sur leur réputation de faire une couverture d'exception, ce qui a été le cas. Et par rapport à d'autres pays comme l'Italie ou la France, où certains pionniers ont continué à garder, mais ils étaient cinq en France.
Par exemple, Bernachon, Bonnat.
Bonnat, voilà, Bernachon, Pralu, d'autres ont continué comme ont fait leurs grands-parents. Ce sont des petites sociétés qui ont toute une histoire derrière et une grande valeur. Par contre, beaucoup ont abandonné. Donc, vous avez d'un côté des couverturiers et beaucoup de chocolatiers qui travaillent avec ces couverturiers. Là, il faudra distinguer quel genre de couverture il y a et ceux qui, dans les années 2000, ont décidé de repartir à zéro.
Alors, parmi les grands fabricants de chocolat de couverture, il y a Barry Callebaut, évidemment, le géant suisse du négoce et de la transformation du cacao, qui appartient à Carlo, pour la petite info, à Cargill, qui est quand même, et on en parle très souvent dans cette émission, la plus grande firme agroalimentaire au monde et qui compte du coup pour 65% du commerce mondial du chocolat via Barry Callebaut. On a presque envie de dire qu'aujourd'hui, c'est impossible d'en réchapper à ce chocolat de couverture.
C'est-à-dire que Callebaut est le plus gros, vu qu'il ne fait que ça.
C'est ça.
Donc, vous avez Callebaut, Olam, les grands teneurs, les grands lobbies du cacao. Par contre, vous en avez qui ont des couvertures autres, qui peuvent avoir des couvertures où ils peuvent vraiment choisir jusqu'à la variété génétique.
Par exemple, Valrhona, on peut faire à la demande.
On peut faire à la demande Valrhona, ou de Mori, ou d'autres.
C'est ça. Mais ça dit aussi quelque chose, c'est que finalement, on a affaire à un quasi-monopole du chocolat par ces grands faiseurs de chocolat de couverture. Et donc, j'imagine aussi une uniformisation du goût.
Aussi.
Alors, vous, Nico, c'est un parcours très intéressant. Donc, on le sait, vous avez été avec Pierre Marcolini, les initiateurs de ce projet Bean to Bar en Belgique. C'est d'ailleurs grâce à vous qu'on en parle aujourd'hui ici en Belgique. Comment vous est venue l'idée de sortir de ces sentiers battus, de ces chocolats de couverture industrielle, pour faire autre chose? Quelle a été la réflexion philosophique que vous avez entamée?
Disons que je suis tombée dans le chocolat grâce à Pierre en 1987. Ouais. Donc, dans les années 2000, on a pris la décision de partir à partir de la fève.
C'est ça.
Donc, Pierre a décidé de s'occuper de l'achat des machines. À l'époque, c'était des vieilles machines encore. Et moi, je suis partie sur le terrain. J'étais en formation aussi. À l'époque, maintenant, la Belgique a bien rattrapé, a même dépassé la France au niveau des recherches sur les variétés génétiques avec l'Institut agronomique de Louvain-la-Neuve et toutes les recherches sont à la hauteur et même dépassant le CIRAD, qui était l'Institut agronomique de Montpellier. Et disons qu'en 3 ans de temps, on a pu importer. Donc chaque année, j'ai fait vraiment beaucoup de voyages à l'époque. Je choisissais suivant certains critères et je ramenais au moins trois plantations sélectionnées. C'est ça. Et c'est comme ça qu'en 3 ans de temps, on était arrivé à 100% de la production.
Mais qu'on comprenne bien, alors aujourd'hui, on en parle énormément dans les médias. Hein. On sait que la demande du chocolat explose, que son prix d'ailleurs lui aussi explose. On sait aussi qu'il risque peut-être d'avoir un déficit mondial de cette offre de cacao ces prochaines années. Donc c'est un marché assez compliqué. Mais on met souvent en avant toutes les problématiques que cette industrie gigantesque génère, ces problèmes environnementaux très importants, des conditions sociales extrêmement compliquées, des hybrides que l'on plante à tout va pour produire plus vite et mieux. Mmh. Il y a 30 ans, on ne parlait pas forcément de ces problématiques. Mais vous l'avez senti venir, ça ?
Je l'ai vu, moi, vraiment, je l'ai vu déjà il y a 20 ans.
Ah oui.
Et ça n'a fait que croître. Mmh. Je veux dire, les hyper-productifs, c'était d'abord le CCN51.
Oui, donc ce sont des cacaoyers hybrides.
Extrêmement productifs, donc exactement les mêmes conséquences que l'huile de palme.
Monoculture,
c'est ça. Avec énormément d'intrants, les machines passent entre les plants de cacao. On ne met surtout pas d'arbres, parce que sinon, ce n'est pas assez productif. Maintenant, prenons l'exemple de l'Équateur, où il y a de très belles choses, mais où le national Équateur est en train de disparaître. Vous avez des nouveaux hybrides, parce qu'on ne replante plus du CCN51. Pourquoi ? Parce qu'il est diabolisé, du moins pour l'Équateur.
C'est ça.
Donc maintenant, c'est 800-800.
Donc il y a des nouvelles générations d'hybrides.
Des nouvelles générations d'hybrides avec des cabosses jaunes plus grosses. Et le gouvernement permet que ça s'appelle national. Parce que c'est des hybrides de national.
Et national, c'est comme si on disait Cabernet Franc ou si on
le
disait...
Le national...
C'est un vrai cépage.
C'est un des plus vieux au monde. Donc ce sont des petites cabosses jaunes qui organoleptiquement sont très bonnes. Mmh. La nouvelle hybride est bonne organoleptiquement. Alors certains producteurs sont bien... payent bien leurs planteurs et mettent des arbres dedans. Donc dis, soit. Ouais.
Hybride, ça veut dire aussi une productivité plus élevée, j'imagine, par rapport au national de base, par rapport au vrai national, probablement la nécessité de traiter plus.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous plantez des arbres, où vous payez bien votre personnel, c'est pour les pays riches, donc c'est plutôt l'Amérique latine, et qui a toujours mieux payé ses paysans. C'est différent de l'Afrique, qui, eux, défrichent parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Et le problème, c'est surtout la Côte d'Ivoire et Ghana. Donc là, c'est une catastrophe. Et là, vous avez jusqu'à 12 intermédiaires. J'ai jamais acheté en Côte d'Ivoire et Ghana. C'est impossible. Il y a vraiment le travail des enfants. Les paysans sont épuisés à 30 ans.
Et ils ne vivent pas de leur travail, en fait, essentiellement.
Mais les malheureux, et c'est vrai qu'il y a l'émission qu'on avait fait à la RTB, c'est tout à fait vrai. Ouais. Bon, maintenant, la bourse, peut-être on parlait plus tard.
Oui, donc il faut quand même signaler que le chocolat fait partie de ce qu'on appelle les soft commodities, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un marché avec des bourses, New York, Londres,
c'est tout vraiment... sous-évalué.
Exactement.
Sous-évalué.
Mais en attendant, les planteurs, eux, ne gagnent pas correctement leur vie, ça c'est certain. Mais c'est tout l'intérêt aussi de cette démarche telle que vous la pratiquez, c'est d'aller donc directement à la rencontre de ces planteurs, c'est de les rémunérer correctement. Donc ça veut dire par exemple une tonne de cacao.
Je vais vous donner quelques chiffres en arrondissant en parlant en euros et en kilos. Il y a quelques années, on avait un cacao qui était aux environs de 2 dollars, 2 dollars et demi à la bourse. Pour le moment, il a été jusque 7 dollars. Moi, je disais qu'un prix normal pour un bon cacao acheté en direct dans un système ou agroforestier ou en forêt ou devait coûter, pour moi, une tablette, c'est à 8 euros, pas 2 euros ou 3 euros. C'est déjà impossible, sachant que certains lobbies achetaient déjà en dessous du prix la bourse.
Ah, oui.
Bon, maintenant, nous arrivons à un prix qui, en une fois, est très élevé. Surtout pour le beurre de cacao et surtout pour ce qui était du bulk. Le cacao acheté en bourse par les lobbies, qui n'est pas de bonne qualité, qui n'est pas trié, que vous trouvez au Ghana, en Côte d'Ivoire et tout, et que finalement, et peut-être celui-là, peut-être surévalué.
Bien sûr.
Donc un cacao comme nous achetons était... par rapport au prix de la bourse quand elle était basse, allait jusque 3 fois, 4 fois.
Ah oui,
et les cacaos rares comme les criollos pouvait arriver à être acheté 7, 8, 10, 12 euros. Mais là, c'était pour des tablettes spécifiques.
C'est ça, oui. C'est ça, mais c'est le prix à payer pour des conditions de travail correctes.
Normalement, nous approchons d'un prix réel.
Tout cela a un prix, et le prix que l'on donne a une incidence, bien entendu, sur l'entièreté d'une filière, et c'est tout l'enjeu, effectivement, de vos démarches. Donc ça veut dire, Nico, quand vous partez dans les plantations, vous allez sourcer vos cabosses, donc il y a vraiment un travail ici d'analyse génétique, vous allez ensuite vérifier la qualité, vous envoyez ensuite ces fèves chez des grands artisans, Pierre Marcolini, Alain Ducasse par exemple. C'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, vous êtes la seule intermédiaire entre le planteur et le chocolatier.
Oui, c'est-à-dire que ou j'ai une plantation qui est une single plantation, donc c'est direct, ou ce sont des petites coopératives, jamais des grandes où je m'en sors pas.
C'est ça.
Et j'ai toujours été sur place, mais il y a des single plantations ou des coopératives avec lesquelles j'ai commencé en 2001 et je suis toujours avec eux.
C'est ça.
Donc j'ai commencé, j'étais la seule.
Et vous êtes nombreux aujourd'hui à sourcer, permettre...
sourceur et sourceur, ça ne veut rien dire être sourceuse. Moi, je suis sourceuse et j'ai commencé à importer. Importatrice. Ouais. Donc, vous pouvez vous imaginer sourceuse alors que vous n'y connaissez pas grand-chose.
Ce sont des années d'apprentissage. Il faut savoir, il faut connaître la matière véritablement.
Il faut tout de suite, mais je vous dis, ça va vite pour déceler si c'est une bonne plantation, comment elle post-récolte, quelle est sa valeur, tester. Moi, c'est la fève. Donc, déjà, goûter, voir, regarder quel genre de fermentation.
Nico, justement, à partir d'une fève, est-ce que vous arrivez à déceler que c'est une bonne fève?
Mais je regarde la fève. Je regarde tout. Les arbres, la fève, le travail post-récolte, le temps que va, par exemple, être entre les cabossages, l'arrivée vers le centre post-récolte, pas plus que 6 heures, sinon il se passe une mauvaise fermentation.
C'est ça. Donc il faut des gens comme vous, des passionnés, il faut remettre du sens. Il faut se rappeler aussi, en tant que consommateur, qu'acheter sa tablette, c'est un choix. Acheter, c'est voter, on ne le dira jamais assez.
Oui,
on
n'a
pas tous les moyens d'acheter une tablette.
C'est quand même du suffrage censitaire, 100 balles le kilo.
J'en arrivais à ça, c'est qu'effectivement ça a un prix. On peut peut-être effectivement de temps en temps s'offrir une petite tablette comme ça
et
concourir effectivement à faire de cette filière quelque chose qui a un peu plus de sens. Mais c'est vrai que vu les perspectives de croissance du marché, on tape sur une croissance annuelle de plus de 4% par an entre aujourd'hui et 2030. Je vois pas comment l'industrie pourrait faire marche arrière, arrêter ces plantations gigantesques de cacaoyers hybrides. J'ai l'impression que là, c'est peine perdue, quoi.
Mais c'est-à-dire que vu que s'ils sont en zone déforestée rapide, normalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Détourner la loi? La nouvelle directive qui interdit d'importer des cacao de zones déforestées? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Quitte.
C'est ce que avec l'Académie française, c'est ce qu'on est en train d'étudier.
Et c'est tout l'objet aussi de votre démarche au quotidien à travers le cercle du cacao. Vous écrivez beaucoup d'articles, évidemment, pour que nous comprenions tous mieux tous ces enjeux de cette filière. Alors, ce qu'on va faire, Nico, et vous allez nous accompagner, on va pas abouder ce plaisir-là. On va démarrer un petit tour du monde, on a fait une petite sélection. On va s'arrêter à Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, au Vietnam, où nous allons retrouver le cofondateur de la chocolaterie Marou, j'ai mal prononcé tout à l'heure, né à la faveur d'un trekking au Vietnam il y a quelques années. Le gaillard source, et au final, un chocolat local éthique à la conquête du monde. On en parlera juste après Jalen Nanga. Oh, ça c'est un petit morceau de musique que vous allez adorer en mangeant votre carré noir.
Ouais.
Ça s'appelle Illusion. Vous mangez quoi d'ailleurs?
Une création pralinée noix de pécan avec du... variété Amelonado.
Oh mon Dieu.
72% de cacao avec du praliné, c'est juste mortel.
Allez, un peu de musique et juste après, les amis, on vous emmène au Vietnam.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.